France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le procès de Cédric Jubilard à Albi, jugé 5 ans après la disparition de sa femme Delphine. Les premières images d'une matinée très attendue dans un instant. La reconstitution dans le drame de Crépole. Les enquêteurs cherchent toujours à savoir qui a poignardé Thomas en novembre 2023. Ils ont recours à la 3D. Nous irons également dans les Côtes d'Armor et à Marseille. Jusqu'à 2 mois de pluie en 1 heure hier. Et une victime, une femme de 55 ans morte près de Guingamp ce matin. À suivre encore, la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Discours historique ce soir d'Emmanuel Macron aux Nations Unies. Nous verrons comment il s'y prépare. Nous serons également à Jérusalem avec vous. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Jérôme.
Car Israël prépare déjà la riposte.
Oui, avec un mot sur toutes les lèvres ici depuis hier soir, c'est le mot annexion. Alors sur quel territoire, sous quelle forme? On vous explique tout ça dans quelques minutes.
A tout de suite, reportage également ce matin dans l'une des mairies où un drapeau palestinien a été hissé. Elles sont 21 en France et communes à l'avoir fait ce matin. À partir de 13h30, le club Med à la croisée des chemins. Fleuron français du tourisme, mais ses actionnaires chinois viennent de débarquer son patron historique, Henri Giscard d'Estaing. Toutes vos questions, 01 45 24 7. 13h45, notre feuilleton sur le chantier de la basilique de Saint-Denis, tombeau des rois de France, dont on reconstruit en ce moment la flèche.
Moi, je suis très ému par cette flèche qu'on va reconstruire. Hein. Elle rappellera à tous ceux qui bossent, qui galopent dans leur vie. Il n'y a pas que l'horizontalité de ta vie. Lève le regard, ça sert à ça, une flèche.
13h50, c'est la France. Une commune des Hautes-Pyrénées doit démolir l'un de ses ponts, trop fragile. Et c'est toute une histoire que nous raconte Cécilia Arbona. Juste avant 14h, c'est une chanson. La photographe Camille Lévesque et la pop italienne de Giorgio Poist avec Frédéric Pommier. Et puis des marionnettes partout en ville. C'est en ce moment Archer-le-Ville-Mézières. Nous y serons dans une vingtaine de minutes. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le palais de justice d'Albi a été spécialement aménagé pour l'occasion. Le procès de Cédric Jubilard s'est donc ouvert ce matin devant la cour d'assises du Tarn. Il est accusé du meurtre de sa femme Delphine, disparue à Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Tout a été écrit ou presque sur cette affaire très médiatique. Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Mais des éléments qui ont convaincu les enquêteurs de la culpabilité de ce mari que sa femme s'apprêtait à quitter. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez ce procès à Albi pour Inter. Vous avez vu Cédric Jubilard ce matin dans son box. Quelle impression vous a-t-il faite ?
Oui, il a le regard assuré, la voix claire. Je m'appelle Jubilard Cédric, peintre en bâtiment plaquiste, se présente-t-il à la cour. La présidente lui lit ses droits. C'est bien clair pour vous ? Entendu, répond l'accusé. Puis il se rassoit sur le banc de son box, crâne rasé, veste de suite bleue, entrouverte, laissant apparaître le tatouage du prénom de son fils dans son cou. Cédric Jubilard suit attentivement cette première audience, dédiée à des questions de procédure, à la lecture des faits, le buste tantôt penché sur ses genoux, tantôt rabattu en arrière, les bras croisés, le corps secoué de petits tics nerveux. On remarque aussi cette alliance qu'il porte toujours à l'annulaire gauche.
Avec, sans surprise ce matin, Jean-Philippe, une très forte affluence.
Oui, un public nombreux réparti dans la salle principale et la salle de retransmission. 120 personnes ont pu entrer ce matin et tout autant patientes dehors pour assister à l'audience de l'après-midi. Cette affluence est finalement le reflet des mystères qui entourent cette affaire de féminicide présumé et ce long match judiciaire entre une accusation qui a rassemblé un faisceau d'indices accablants et une défense qui affirme que sans corps, sans aveu, sans preuve, le doute doit l'emporter. La cour et les jurés, 4 hommes et 2 femmes, vont entendre près de 80 témoins et experts, presque tous accusateurs, avant de rendre leur verdict dans un mois.
Merci Jean-Philippe Degnaud, en direct d'Albi avec les moyens techniques de Lucien Lefèvre. À Laon, devant la cour d'assises de l'Aisne, là c'est le procès d'un cold case qui s'est ouvert ce matin. Un meurtre qui date de 1994, celui d'une lycéenne de 17 ans, Nadège Desnois, tuée à Château-Thierry. Son meurtrier présumé a été identifié en 2021 grâce à son ADN. Il a reconnu les faits avant de changer de version et ce matin, il a clamé son innocence. Tandis qu'à Lyon, c'est le toujours maire de Saint-Étienne qui est jugé depuis ce matin, Gaël Perdriau, 53 ans, ex-LR, comparé pour avoir fait chanter l'un de ses rivaux politiques au moyen d'une sextape, une vidéo intime. Malgré les pressions, il a refusé de démissionner et il dénonce toujours une instruction à charge. Mathilde Imberti, vous êtes au tribunal judiciaire de Lyon où la sextape a été diffusée ce matin.
Un visionnage qu'ordonne d'emblée la présidente du tribunal correctionnel. Mais à huis clos, restent dans la salle les prévenus et les parties civiles dont Gilles Artigue, protagoniste de la vidéo, est victime. Sa femme et ses enfants, manifestement éprouvés, sortent, tout comme le public et la presse. Court visionnage, quelques minutes, c'est un montage. Puis dans la salle, de nouveau accessible, c'est à Samy Kefi de s'exprimer, l'homme qui a filmé et qui reconnaît le piège tendu à Gilles Artigue autour de son homosexualité refoulée. Un homme, dit-il, qu'il estime, pour qui l'amitié était politique. Les actes sont graves, inadmissibles, plaide encore l'ancien adjoint. J'ai abîmé le statut d'élu, j'ai fait du mal à Saint-Étienne, je tente de faire face à l'homme que j'étais. La présidente raille ce positionnement, rappelle que pendant l'instruction, il qualifiait Gilles Artigue d'harceleur, ayant des pulsions sexuelles à son encontre, pulsions qu'il subissait. Elle lui fait raconter les différentes étapes précédant la rencontre avec un prostitué dans une chambre d'hôtel à Paris, cette soirée coquine présentée à la victime comme un cadeau d'anniversaire. Des premiers instants d'audience à l'image de cette affaire qui rancœur politique et intime.
Mathilde Imberti à Lyon pour Inter. Là, on n'en est pas au procès et pour cause. Presque deux ans après la mort de Thomas Perotto, poignardé lors du bal du village à Crépol dans la Drôme, les enquêteurs ne savent pas qui a porté le coup mortel. Et cette enquête entre aujourd'hui dans une phase décisive avec pendant deux semaines la reconstitution des faits. Non pas in situ, mais au tribunal de Valence, avec des moyens 3D, Pierre de Cossette.
Oui, c'est tout sauf une salle des fêtes, la salle des assises de Valence, la plus grande du tribunal, pour accueillir une douzaine de suspects, leurs avocats, des victimes, mais pas les parents de Thomas, inutiles pour leur avocat Alexandre Farelli.
Ce qu'ils veulent, eux, plus que tout, c'est remonter le temps. Tous les jours, leur état d'esprit, il est lié au manque de ne plus pouvoir serrer dans leurs bras Thomas, de le voir mourir plusieurs fois par jour, de prendre des coups de couteau plusieurs fois par jour, et de rêver de pouvoir le sauver.
Plutôt qu'une reconstitution, de nuit à Crépol, c'est dans le huis clos d'une salle d'audience avec trois écrans de télévision et des images en 3D réalisées par un expert que les participants vont dire où ils se trouvaient au moment du drame. Le procureur de Valence, Laurent Dequigny.
La reconstitution classique, ça se solde par un album photo. Alors c'est très bien les photos, mais les films, ça permet de multiplier les points de vue. On peut tourner à 360 degrés grâce à la reconstitution virtuelle. On peut par exemple se mettre exactement dans l'angle de vue d'un témoin.
Dans un dossier où le silence est roi, le procureur doute que les langues se délient. Après deux ans d'enquête, il y a pourtant urgence à éclaircir les rôles de chacun. Romaric Château, avocat de trois mises en examen, s'impatiente.
C'est pas parce qu'on n'est pas de Crépol et qu'on a passé la soirée au bal de Crépol qu'on est nécessairement un assassin ou un meurtrier. Celui ou ceux qui ont pu mettre des coups de couteau qu'on les condamne, mais les autres qu'on les libère et qu'il soit écarté de cette affaire.
Décider de qui doit être jugé, ce sera le rôle des juges d'instruction à l'issue de l'enquête. Traditionnellement, la reconstitution fait partie des dernières investigations.
Qui s'en est pris à un bar de Brest samedi soir? En l'occurrence, le Café de la Plage, situé dans le centre-ville, est connu pour être l'un des fiefs de la gauche brestoise. Les clients décrivent une attaque menée par une vingtaine de personnes, certaines armées de battes de baseball. Il y a eu plusieurs blessés. Bonjour Marion Aquilina.
Bonjour.
Des vidéos permettent de se faire une idée.
Oui, on voit un groupe qui arrive déterminé vers la terrasse du bar. Ils ont des casquettes, des cagoules, ça dégénère très vite. Certains prennent des chaises, les lancent sur les clients. On aperçoit également quelqu'un au sol, roué de coups par plusieurs agresseurs. Une scène très violente qui dure 5 minutes. Léna était à quelques mètres. Elle témoigne au micro de nos confrères d'ici Brésisel.
Toute la terrasse a explosé d'une certaine façon, en bagarre générale, mais d'un seul coup. Les chaises ont volé, les gens sont tombés par terre. Enfin voilà, c'est vrai qu'à la suite, moi je tremblais à moitié quoi.
Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. À chaque fois, les victimes décrivent un groupe au visage dissimulé. Le 6 septembre, un jeune de 23 ans est frappé à la sortie d'une boîte de nuit. Le 30 août dernier, deux élus insoumis sont agressés lors d'une collecte de fournitures pour le Secours populaire. L'un d'eux est le compagnon du député LFI, Pierre-Yves Cadalin.
Les agressions d'extrême droite se multiplient depuis cet été en ville, un peu partout. Cela préoccupe beaucoup de nos concitoyens légitimement et il y a comme un sentiment d'impunité généralisée qui est y compris créé par le silence glaçant des autorités sur cette question.
Et déjà, quatre plaintes ont été déposées. Le parquet de Brest a ouvert une enquête pour violences aggravées.
Marion Aquilina pour ses précisions. Bouches-du-Rhône, Var, Côte d'Armor, trois départements distants de plus de 1000 km, mais touchés hier par de très fortes pluie, épisode méditerranéen pour les deux premiers. Succession d'averses, résultat de l'arrivée d'un air très froid en altitude. Pour le troisième, le département breton, conséquence des trombes d'eau, des dégâts et une victime. Une femme est morte tôt ce matin en Bretagne. Angeline Demoing, qu'elle est restée bloquée dans sa voiture près de Guingamp.
Il s'agit d'une habitante de la commune, une femme de 55 ans qui partait au travail en voiture vers 7h ce matin. Elle s'est retrouvée piégée, explique Yannick Echeveste, le maire de Ploumagoire.
La dame s'est engagée avec son véhicule dans une cuvette, on va dire, hein, puis elle a été rapidement emportée avec sa voiture. Puis malgré ses appels au secours, on n'a rien pu faire pour sortir de l'eau.
Il faut dire que personne ne s'attendait à une montée des eaux aussi rapide. Il est tombé en 12 heures, l'équivalent d'un mois de pluie dans l'ouest des Côtes d'Armor.
On n'a jamais vu autant de quantité d'eau en si peu de temps, donc c'est monté très rapidement à plusieurs endroits de la commune avec des inondations dans certains quartiers.
La décrue est désormais amorcée et l'heure est au bilan des dégâts matériels.
À cette heure-ci, la plupart des rues sont praticables. Les pompiers avec les services techniques et puis des citoyens qui sont solidaires sont en train de vider les cuves, de vider les caves et puis de faire en sorte aussi, on a quelques entreprises qui sont touchées, on est en train de voir pour délester quelques bassins de rétention qui débordent. Donc voilà, tranquillement, on est en train de retrouver une vie normale, j'ai envie de dire, malgré l'arme.
Ces dernières 24 heures, les pompiers des Côtes d'Armor sont intervenus plus de 400 fois.
Récit ici, Braise-Izel à Paimpol, toujours dans les Côtes d'Armor. La mairie a dû ouvrir une salle des fêtes pour accueillir des habitants évacués. Plus au sud, 101 mm de pluie en 2 heures hier après-midi. À Avignon, soit plus d'un mois de pluie. À Marseille, le déluge hier en fin d'après-midi n'a pas fait regretter aux autorités le report du match de Ligue 1 OM Paris Saint-Germain qui finalement va se jouer ce soir à partir de 20h. Mais d'ici ce soir, cette opération nettoyage comme dans le quartier de l'Estac à Marseille, où l'eau a emporté les cendres du grand incendie du début de l'été. Sur place, Mathilde Vinceneuf.
Dans cette rue de l'Estac, l'eau est descendue à toute vitesse, comme une rivière déchaînée, raconte Marie-Louise. Elle a tout filmé depuis son balcon.
Là, si vous marchez dans la rue, là, je pense qu'on se faisait emporter. Hein. Il y a la voiture à la cognée, là, de la force de l'eau. On a vu un torrent, comme si c'était un torrent.
Un torrent noir à cause de l'incendie de l'été. Les cendres ont ruisselé des collines et les arbres carbonisés n'ont rien empêché, explique Annie, une autre habitante.
Il n'y a plus de végétation qui retient, donc c'est affreux. C'était l'apocalypse. Et l'eau, la boue et les cendres, ce noir, voilà, cette boue noire.
De la boue noire, il y en a partout dans le jardin de Nicole. Elle habite un vallon où plusieurs maisons ont brûlé en juillet.
Coulé en cascade, toutes les cendres sont venues sur le devant de la maison et sont rentrées. On avait un lac devant la maison. Et là, ce qu'on craint énormément, ce sont les chutes de pierre maintenant.
Armés de pelles, les riverains déblaient. Ils tentent aussi de démarrer les voitures bloquées dans la boue.
Bon, la voiture marche.
Catherine et Patrick ont vu de l'eau envahir leur jardin et leur salon.
Ça a forcé la porte.
Ça a duré un quart d'heure. Hein.
Tout a été submergé en un quart d'heure.
Un peu plus bas dans le village, les commerces sont fermés. Impossible d'ouvrir les rideaux métalliques tant que l'électricité n'est pas revenue.
Mathilde Vinceneux pour ce reportage à Marseille pour Inter.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est une phrase qui vient de loin. Ce soir, à la tribune des Nations Unies à New York, Emmanuel Macron annoncera devant des chefs d'État du monde entier la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Et tout cela, 43 ans après le discours d'un autre président français, François Mitterrand, 1982, devant les députés israéliens à Jérusalem, leur avait demandé de reconnaître un État palestinien. Emmanuel Macron va donc franchir le pas ce soir pour la France dans un contexte très lourd, offensive terrestre israélienne à Gaza. Gaza où le Hamas détient toujours des otages israéliens enlevés et exhibés depuis le 7 octobre. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour.
Vous êtes à New York pour Inter. Le président de la République ce soir va peser chaque mot.
Oui, jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron va peaufiner son discours. Il montera à la tribune vers 21h, heure de Paris tout à l'heure. Dans un moment de bascule, estime l'Élysée, en coulisses, le président se prépare effectivement depuis plusieurs mois. Le déclic, il l'a eu en revenant début avril d'un voyage à El Arish, à quelques kilomètres de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le président estime qu'il en va d'un devoir moral. Ces derniers jours, il s'emploie donc à rassurer les représentants de la communauté juive, très inquiet, notamment le CRIF qui lui a demandé de revenir sur sa décision dans un contexte politique électrique aussi. Olivier Faure, le leader du Parti Socialiste, appelle à pavoiser le fronton des des mairies du drapeau palestinien. Jean-Luc Mélenchon fait de la cause palestinienne de Gaza un argument de campagne permanente. La droite est sceptique de son côté. Marine Le Pen accuse le président de vouloir laisser les clés d'un État tout entier au Hamas. Emmanuel Macron lui tente de montrer qu'il a encore une influence sur la scène internationale, malgré son affaiblissement sur la scène politique nationale. Interview à la chaîne 12 en Israël, à CBS, ici aux États-Unis. Dans son sillage, 9 pays franchissent ce pas, dont le Canada et le Royaume-Uni. Ce soir, sachez que seule sa parole suffit. Pas besoin de vote ou de procédure diplomatique pour reconnaître l'État palestinien.
Dans un pays, la France, qui compte les plus fortes minorités juives et musulmanes d'Europe. Merci Paul Barcelone pour ses explications depuis New York. Avant de voir comment cette décision est accueillie en France, direction Jérusalem, Thibault Lefebvre, vous y êtes notre correspondant. On vous retrouve. Alors à court terme, Thibault, cette décision de la France va surtout rester symbolique. Elle ne va pas changer le quotidien des Palestiniens. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envisage déjà des mesures de rétorsion. Cela pourrait passer par l'annexion de territoires.
Oui, c'est en effet, Jérôme, ce qui est aujourd'hui sur la table, un plan d'annexion de la Cisjordanie, ce qui n'est en revanche pas décidé, c'est son ampleur. La position maximaliste consiste à s'accaparer de 82% des territoires et laisser aux Palestiniens 6 grandes villes isolées les unes des autres. C'est la proposition de l'extrême droite et du suprémaciste Bezalel Smotrich. Plus mesuré, le plan proposé par le conseiller de Benjamin Netanyahou, Ron Dermer, plan déjà discuté avec les Américains et qui envisage l'annexion de la vallée du Jourdain. Il y a un double enjeu, un enjeu économique d'abord, puisque de nombreux colons israéliens exploitent déjà l'eau du fleuve, et un enjeu sécuritaire, car la Cisjordanie partage une frontière avec la Jordanie. Pour le moment, Benjamin Netanyahou joue la montre. Il décidera, dit-il, à son retour des États-Unis la semaine prochaine, après avoir rencontré Donald Trump. Au cœur de cette réunion, il y a l'héritage diplomatique du président américain dans la région. En cas d'annexion, les Émirats arabes unis menacent en effet de sortir des accords d'Abraham et donc de rompre tout simplement leur alliance avec Israël.
Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem. Illustration de vos propos, Thibault. Les colons israéliens qui vivent en Cisjordanie sont 500 000 aujourd'hui à être installés dans ce territoire occupé. Et cette colonisation s'est accélérée depuis les massacres du 7 octobre. La reconnaissance française y est très mal reçue. Reportage Éric Audra et Étienne Molin.
David Fedida est le Français de la colonie d'Itzar.
Je pense.
Il tient le supermarché à l'entrée de la colonie. Il est arrivé il y a 18 ans. Il a 11 enfants. Et cette colonie, aujourd'hui, d'après lui, peut s'étendre après des années de restrictions.
Il y a une croissance dans notre implantation et aussi dans les villages alentours qui est favorisée par le régime de Donald Trump. Par rapport à Obama, ben, c'est plus laxiste. Ils font moins. Moins casser les pieds à Israël sur chaque chaise ou chaque banc qui change de place.
L'autre accélérateur de la colonisation, c'est le 7 octobre. Les colonies pour le franco-israélien sont devenues un élément clé de la sécurité pour l'État d'Israël.
Il y a une prise de conscience qu'il faut être présent sur le terrain, parce que sinon, c'est les terroristes qui seront sur le terrain et on ne veut pas se retrouver au 7 octobre toutes les deux semaines.
D'après David Fedida, la reconnaissance n'est pas un sujet majeur dans la colonie, mais il critique tout de même violemment le choix du président français.
Macron, il a des problèmes en France, et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de casser les pieds à Israël. Aujourd'hui, l'antisémitisme ou l'antisionisme, c'est la même chose. C'est honteux pour la France.
Et pour lui, cette reconnaissance ne changera pas le cours des choses.
En France, justement, 52 mairies ont hissé ce matin un drapeau palestinien selon le dernier décompte communiqué par le ministère de l'Intérieur, ministère qui l'avait interdit à la demande du ministre démissionnaire Bruno Retailleau. C'était le cas ce matin notamment à Nantes, mais aussi à Saint-Denis où s'est rendue Sonia Gobry.
Au balcon de l'hôtel de ville, Mathieu Hanotin, maire PS de Saint-Denis, observe les agents hisser le drapeau palestinien. Un geste symbolique pour un jour historique, justifie l'élu.
Notre but n'est surtout pas d'opposer les uns aux autres, mais plutôt d'accompagner une position diplomatique française nouvelle et de lui donner de la force en montrant justement aussi un soutien populaire.
En effet, à Saint-Denis, l'initiative du maire est largement saluée devant l'hôtel de ville pavoisé du drapeau palestinien. De nombreux passants s'arrêtent pour prendre une photo.
C'est un grand jour pour moi.
Mohamed confie sa joie et son émotion.
Ça symbolise la fraternité, le grand cœur de la France, l'humanité. Je suis fier de la mairie de Saint-Denis, je suis fier de la République.
En plein bras de fer avec Bruno Retailleau, le patron des socialistes Olivier Faure a fait le déplacement ce matin. Il a dénoncé l'indécence folle du ministre de l'Intérieur qui, je cite, cherche à condamner des maires qui font leur devoir de solidarité. Thomas, habitant de Saint-Denis, pense pareil.
À un moment, c'est quand même questionnable qu'on ait pendant des mois posé des drapeaux ukrainiens sur nos mairies et que là, on se dise que c'est nuire à la neutralité du service public. C'est vraiment de mauvaise foi.
Le maire de Saint-Denis a reçu un courrier de la préfecture. Il précise que le drapeau de la Palestine sera retiré demain du fronton de l'hôtel de ville.
Sonia Gobry, et la nuit dernière à Paris, la mairie a fait afficher sur la tour Eiffel les drapeaux palestiniens et israéliens, ainsi qu'une colombe et un rameau d'olivier, symbole de paix. 23 euros la journée sur le parking du CHU de Brest, 22 euros à Paris pour stationner à l'hôpital Robert-Debré, 21 euros au CHU de Nancy. Ce sont nos confrères du journal Le Parisien qui avaient révélé ces tarifs au printemps dernier. Car beaucoup de parkings d'hôpitaux sont devenus payants ces dernières années, à tel point que deux députés ont entrepris un tour de France pour rédiger une proposition de loi sur ce sujet. Ils viennent de se rendre à Saintes, en Charente-Maritime, où l'hôpital est public, mais le parking payant 50 centimes d'euros le quart d'heure. Pierre Marseille a stationné pour nous.
Depuis juillet 2024, le parking du centre hospitalier de Saintes est payant avec une heure gratuite. Alain Sanchez est le représentant des usagers. Il habite à 30 km et il souffre d'une maladie chronique. Une heure gratuite, ça ne suffit pas.
Quelqu'un qui vient dans ce bassin de population, qui vient de plus de 30 ou 40 km, quand il arrive ici, qui va visiter un malade, le temps de se garer, le temps de repartir, il perd un quart d'heure, 20 minutes. Et donc la visite auprès du malade, elle dure à peine une demi-heure, donc ça paraît très court.
Les syndicats de l'hôpital sont unanimes. Le parking du personnel soignant est gratuit, mais les représentants estiment qu'il devrait en être ainsi pour tous les usagers et visiteurs. Franck Rochorio-Rodriguez du syndicat UNSA.
Nous, c'est ce qu'on souhaiterait. Après, se pose la problématique du filtrage des personnes qui vont stationner. Puisque ce que nous vivons aujourd'hui à l'hôpital, des conditions de travail difficiles, des agents qui sont cassés, éventuellement reclassés, on pourrait éventuellement imaginer peut-être ce qu'on a vécu à l'hôpital Saint-Louis, par exemple. Nous avions des agents qui étaient positionnés à l'entrée de l'hôpital et qui faisaient un filtrage à l'entrée.
La gratuité totale n'est pas une bonne idée, répond Françoise Ménard, vice-présidente du groupement hospitalier Saint-Jean-d'Angély. Mais pourquoi pas deux heures de gratuité?
Ce qui permettrait d'aller voir tranquillement un membre de sa famille ou un ami hospitalisé et que ça soit gratuit, que le parking soit gratuit.
Le parking du centre hospitalier de Sainte n'est pas privatisé, il est géré en régie directe par l'hôpital lui-même.
Reportage ici La Rochelle. Je l'ai cité il y a un instant, le quotidien Le Parisien, aujourd'hui en France, figure de notre presse, fondée à la Libération en 1944, mais il vit des heures agitées. Il y a quelques jours, plusieurs articles de presse ont annoncé que l'actuel propriétaire Bernard Arnault, le patron du groupe de luxe LVMH, était sur le point de vendre Le Parisien à un autre homme d'affaires, le milliardaire breton Vincent Bolloré, déjà propriétaire de la chaîne CNews et du journal Le JDD. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Les salariés du Parisien se sont rassemblés ce matin, également contre un projet de réorganisation.
Oui, le quotidien très influent vient de vivre un plan d'économie. Il faut dire qu'il perd plus de 30 millions d'euros par an. 46 départs de journalistes contre une trentaine prévues initialement et les remplacements CDI promis qui ne viennent pas ou seulement par des salariés précaires. Tout cela, c'est un synonyme de désengagement de la direction qui fragilise d'autant plus le journal, s'inquiète Aymeric Renoux, délégué syndical SNJ.
La situation, elle est double. On est dans une entreprise qui perd beaucoup d'argent, et parce qu'elle perd beaucoup d'argent à cause des choix stratégiques industriels mauvais qui ont été faits, elle est la proie à des acheteurs. Et face à nous, on a une direction qui est muette, donc c'est très inquiétant. C'est sidérant, j'ai jamais fait une rentrée comme ça.
Des conditions de travail dégradées, une absence totale de garantie donc, tant sur les postes que sur ces rumeurs de vente qu'on évoquait, raison pour laquelle il est nécessaire de se mobiliser dès maintenant, estime Gwenaël Bourdon du SGJFO.
On a les précédents du JDD, de iTélé, on les a tous en tête. Donc c'est évident que c'est quelque chose qui inquiète. Le message, il est adressé à notre direction, à notre actionnaire, pour dire qu'on le refuse et faire savoir que, en gros, cette rédaction n'est pas prête à se laisser faire. Ça, je pense que c'est important de le faire dès maintenant.
Selon le média en ligne Les Jours, Bernard Arnault aurait renoncé à vendre, mais ni les salariés ni les syndicats, toujours en Assemblée Générale à l'heure où on se parle, n'ont eu confirmation de cette information.
Xavier Demany, le Parisien qui fait l'actualité aujourd'hui, joue au football au Paris Saint-Germain. Il a 28 ans, il s'appelle Ousmane Dembélé, favori pour l'obtention du Ballon d'Or, le titre de meilleur joueur du monde. Il serait le 6e Français à l'obtenir. C'est un collège d'une centaine de journalistes du monde entier qui votent. Cérémonie ce soir à Paris, Théâtre du Châtelet. Là, nous sommes dans un théâtre de marionnettes. La 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes s'est ouverte ce week-end et se déroule jusqu'au 28 septembre à Charleville-Mézières. 150 festivaliers attendus, 91 spectacles, sans compter tous ceux qui sont gratuits dans les rues, Stéphane Capron.
La place du Cal s'est transformée pour l'occasion en carrousel géant.
Tu voudrais faire un voyage très dangereux et explorer des nouveaux mondes, tu dois d'abord entrer sous le dent des cachalots.
Les enfants et les parents s'amusent sur des manèges sortis de l'univers de Jules Verne.
C'est le premier festival où on emmène notre fiston.
Très bien.
Tous les deux ans, le festival est l'occasion pour son directeur Pierre-Yves Charlois de montrer l'ingéniosité de la nouvelle génération du monde de la marionnette.
Elle est hyper motivée, hyper inventive, créative. La marionnette comme art transdisciplinaire prend tout son sens. Il y a une inspiration de toutes les techniques et des arts plastiques pour nous raconter des choses que nous ne pourrions pas faire autrement.
C'est le cas du spectacle d'Aurélie Hubeau, Alcool, qui s'appuie sur des textes de Marguerite Duras pour raconter le quotidien d'une femme alcoolique avec une marionnette innovante tenue par des fils à la verticale.
Les manipulateurs sont de part et d'autre de la marionnette, à grande distance parce que les fils font 3 mètres de chaque côté. Et c'était pour accentuer l'effet de solitude du personnage qui est une femme alcoolique.
Charleville, véritable vitrine pour l'art de la marionnette, n'oublie pas l'ouverture sur le monde avec cette année un focus sur les pays baltes.
Le Festival mondial des théâtres de marionnettes jusqu'au 28 septembre à Charleville-Mézières. Quand le zoo de Beauval va devoir rendre 2 des 4 pandas qui sont présents sur place, les rendre à la Chine dès le mois de novembre, car l'un de ces pandas, une femelle, souffre d'insuffisance rénale, nous dit le directeur du zooparc. Enjeu de protection animale, mais enjeu diplomatique très fort également avec les autorités chinoises. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons du Club Med, un mythe français devenu un groupe de tourisme de luxe contrôlé par des actionnaires chinois qui viennent d'en renvoyer l'ancienne direction. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton. Nous sommes sur le chantier de la basilique de Saint-Denis qui veut retrouver sa flèche démontée au 19e siècle. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Cécilia, vous nous parlez d'un pont.
Le pont du Coustou dans les Hautes-Pyrénées, fragile et dangereux. Il faut le démolir puis le reconstruire. La facture est hors de prix pour le village de 90 habitants d'Ariès-Espénan.
Et c'est un sujet qui parle dans beaucoup de nos communes. Et avec vous Frédéric, une photographe.
Il s'agit de Camille Lévesque qui pour 2 semaines encore expose aux rencontres de la photographie d'Arles. Son exposition s'appelle « À la recherche du père » et avec elle, c'est de la pop italienne que nous écouterons. Nous allons parler d'amour.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Amélie Nothomb, votre nouveau livre, tant mieux. Roman ou histoire vraie ?
C'est un conte. Dans ce livre, je raconte la vie de ma mère. Mais tout a l'air tellement exagéré dans sa vie que seule la forme du conte permettait de raconter l'invraisemblable.
Pourquoi ce titre, tant mieux ?
Ma mère a surmonté tous les traumatismes de l'enfance grâce au pouvoir du tant mieux. Le tant mieux, c'est l'optimisme paradoxal. Tout va mal, donc on décide que tout va bien. Le tant mieux, c'est la version joyeuse du sang-froid.
Tant mieux d'Amélie Nothomb, un roman Albin Michel.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. France Inter, partenaire de la Fiesta des Suds. La Fiesta des Suds prolonge l'été indien. Pour sa 34e édition, le festival marseillais vous touchera en plein cœur avec Kassav, Morshiba, Youssoufa, Kezia Jones, Double, Chege, Enchanté Julia et bien d'autres. Rendez-vous du 9 au 12 octobre à Marseille sur l'esplanade Gisèle Halimi pour secouer le dance floor, la tête dans les étoiles, la mer pour horizon. La Fiesta des Suds, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un lundi humide et plus frais.
Oui, alors c'est perturbé sur le nord-est, jusqu'au nord du Massif central et au nord des Alpes avec des pluies parfois copieuses. Du sud-ouest au sud de Rhône-Alpes, pas mal de nuages, des averses plus marquées et parfois orageuses sur le sud de l'Aquitaine. Du nord-ouest au nord de la Seine, là c'est plus calme avec des éclaircies. Toujours quelques averses résiduelles du Pas-de-Calais au nord de la Bretagne, poussées par un vent de nord-est, mais vraiment rien à voir avec les averses d'hier et de la nuit dernière. Et puis près de la Méditerranée, retour du soleil avec un vent de nord-ouest sensible, une averse possible en Corse tout de même. L'ambiance, elle se rafraîchit, hein, c'est plus automnal. On est repassé sous les valeurs de saison avec 13 à 19 degrés cet après-midi, jusqu'à 22 à 26 en Méditerranée, 28 en Corse. Demain, il fera encore un peu plus frais, pas mal de nuages, quelques averses, des pluies toujours sur un large quart nord-est, mais de belles éclaircies sur l'ouest de la Bretagne et du soleil en Méditerranée.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est l'une des marques les plus connues des Français, même s'ils sont une toute petite minorité à en être clients. Le Club Med, au départ une association créée en 1950, devenue un géant du tourisme, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 1,5 million de clients attirés par ces villages haut de gamme. Le groupe est depuis 10 ans, qui le sait, la propriété d'un immense conglomérat chinois, Fosun, mais il garde des liens très forts avec la France. Jusqu'à quand le renvoi cet été de son patron historique, Henri Giscard d'Estaing, est-il le signe d'une reprise en main? On attend des éléments de réponse cette semaine, puisque le Club Med va fêter ses 75 ans et réunit son comité de direction. 01 45 24 7000. Pour vos questions, vous pouvez passer également via l'application Radio France pour interroger notre invité, Jean-Jacques Manceau. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste économique. Vous êtes passionné par l'histoire du Club Med au point de lui consacrer deux livres. Le Club Med à la fin des années 80, au milieu de l'histoire, donc à la télévision française, c'était ça.
Club Med.
C'est gentil, mais j'ai un tennis.
Club Med.
Une seconde, j'enfile mes bottes.
Club Med.
Non merci, je sors de table. Par devant, j'arrive.
Oui, mais non.
Le bonheur, si je veux.
Voilà cette pub du Club Med 1989, réalisation Patrice Lecomte. Vous avez reconnu la voix de Thierry Lhermitte, évidemment l'une des figures des bronzés qui était aussi une peinture du Club Med. Jean-Jacques Manceau, il faut peut-être repartir du départ. Le Club Med du départ, ça n'est pas du tout ça. 1950, Gérard Blitz, un ancien champion sportif belge de confession juive qui en a eu l'idée en prenant soin de déportés qui revenaient des camps de concentration nazis après la guerre. On est très très loin de ce qu'on imagine aujourd'hui.
Ah oui, on est quand même très très loin de ce qu'on imagine. En fait, à la base, le Club Med, c'est une sorte d'utopie de Gérard Blitz, qui est fils d'un diamantaire à Anvers, qui est champion effectivement de waterpolo et qui part en Suisse juste après la guerre et constate qu'il y a des endroits qui sont dédiés justement aux juifs qui sortent des camps de concentration et qui sont censés leur permettre de reprendre vie, de réapprendre à manger, à sociabiliser. Et lui, il part de cette idée que peut-être qu'une utopie qui pourrait, dans cette après-guerre de rationnement, de souffrance, cette utopie de créer des camps, mais non plus des camps de la mort, mais des camps du bonheur, eh bien ça...
C'est des camps inversés, en quelque sorte.
C'est des camps inversés. Et en fait, il a la révélation, une espèce de révélation, en allant en Corse, au Club Olympique, le Club Olympique de Calvi, qui est certainement celui qui a inventé quelque part le all-inclusive, c'est-à-dire cet endroit où on peut, une fois qu'on a payé son inscription, où on peut cohabiter avec des gens qu'on ne connaît pas, de toute classe sociale, avec des buffets à volonté, du sport à volonté, on ne parle pas encore d'encadrement d'enfants, mais en fait, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir y aller aussi en famille. Donc cette utopie, en fait, Ben, il a envie de la réaliser. Et pour la réaliser, ben, il contacte un jour, il prend l'annuaire parce qu'il cherche un endroit pour justement installer son premier camp du bonheur. Ce sera à Alcudia, en Espagne, dans les Baléares. Et pour y installer un camp, en fait, au départ, c'est tout simple. Hein, il prend l'annuaire, il cherche des gens qui vendent des tentes. Et il tombe sur Serge Trigano et fils. Ça lui semble sympa parce que ça a l'air d'être une entreprise familiale. Serge Trigano, lui, il juif aussi, mais il recycle des tentes de l'après-guerre. Et finalement, ils font une alliance un petit peu à deux. Et Serge Trigano est séduit par ce Gérard Blitz qui est un grand rêveur, en fait.
Alors, le rêve et puis les réalités économiques, très rapidement, vous avez dit le mot entreprise. L'entreprise Club Méditerranée, je propose d'écouter l'un des membres de la famille Trigano, c'est Gilbert Trigano. 1975, 25 ans après la création du Club Med, êtes-vous un industriel des vacances ?
Nous ne sommes pas des industriels. Si fabriquer des vacances, c'est pour vous une industrie, pour nous, c'est essayer à partir de moyens mis collectivement à la disposition de tout le monde, de retrouver pour chacun la joie, ou presque en exagérant un peu, le bonheur individuel. Alors pour moi, ça n'est pas du tout industriel.
On n'a pas l'impression qu'il y a un paradoxe. Vous avez été journaliste à l'Humanité, vous dites une joie collective. Alors, vous n'avez pas l'impression de faire du collectivisme avec des riches lorsque vous faites ces villages
pour Américains ? Je n'ai jamais dit une joie collective. La collectivité, pour nous, c'est renoncer à la propriété pour obtenir une meilleure jouissance.
Collectivisme de riches ou entre riches, dit ce journaliste Jean-Jacques Manceau. Est-ce qu'on pourrait reprendre l'expression aujourd'hui pour qualifier le Club Med ?
Je pense pas que ce soit le collectivisme, c'est plutôt la possibilité pour chacun de trouver un endroit où il peut trouver son propre bonheur, sa propre façon de passer des vacances. Gilbert Trigano, donc le père avant Serge, a un petit peu conceptualisé le Club Med, mais le Club Med, entre la vision de Gérard Blitz et la suite, le Club Med passe d'une association à une entreprise. Le Club Med fait rentrer Edmond Rothschild comme premier actionnaire qui était un client du club à l'époque en Israël, qui ne voulait pas voir le club fermé, parce qu'évidemment, la réalité du quotidien, c'est que le club, c'était des bénévoles, c'était la première plage à Alcudia, ils se sont fait chasser par les catholiques, on est à l'époque de Franco, ils se font chasser, ils doivent retrouver un autre endroit, ce sera en Italie, à Baratti. Donc en fait, il faut industrialiser. À partir de 1966, le Club Med construit son premier village en dur à Agadir. Après le tremblement de terre d'Agadir, il construit le premier village en dur. C'est-à-dire que le Club Med rentre dans une ère. Il fait de l'immobilier, c'est une nouvelle ère. Avant, il faisait des petites cases, des petites tentes. C'était limite la période camping. Mais là, on est dans une ère où il faut gérer des villages, il faut payer des factures, il faut payer, et puis il y a des salariés, il faut les payer, il faut les animer. Donc, Gilbert Trigano fait rentrer le club dans une ère industrielle avec l'arrivée d'actionnaires. Il y aura ensuite les Agnelli, il y aura ensuite toute une série d'actionnaires qui vont se retrouver à la tête de cette entreprise qui reste la plus belle entreprise mondiale du tourisme, on est d'accord, la plus connue, la plus iconique.
Ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, Jean-Jacques Manceau, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est devenu le Club Med 75 ans après ? Ce sont des clubs partout dans le monde, à la mer, à la montagne, on paye plusieurs milliers d'euros par personne pour y passer une semaine ?
Alors, moi, il y a une contre-vérité que j'aime bien, contre laquelle j'aime bien lutter, c'est que le Club Med n'a jamais été très populaire, au sens n'a jamais été donné.
Ça, c'est un mythe.
C'est un mythe. Quand des vacanciers partaient 3 mois à Tahiti pour aller au Club Med, il y a peu d'ouvriers, et en tout cas des gens de la classe populaire, qui prennent 3 mois de vacances. Donc, c'est un petit peu un mythe. Ça a toujours été une forme de vacances pour des élites.
Ça a toujours été cher, mais ça l'est beaucoup plus depuis 10 ans.
Ça l'est beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que en 2001, il y a effectivement les attentats du 11 septembre. Le tourisme connaît un tsunami sans précédent. Tout doit changer. Et le Club Med, on le voit à la fin des années 90, perd de l'argent, perd énormément d'argent. Et les actionnaires en ont marre de rajouter de l'argent. Donc, les actionnaires cherchent une solution. Quand Henri Giscard d'Estaing arrive au Club Med, d'abord comme directeur financier, puis comme président, il établit une stratégie de dire, de toute manière, aujourd'hui, le Club Med, tel qu'il existait, ces villages all-inclusive, où tout est compris, où finalement, il n'y a plus qu'à qu'à vivre heureux. Ça a été copié, dupliqué, caricaturé dans le film de Patrice Leconte, évidemment, mais aussi par plein de concurrents. Robinson, il y a plein de concurrents qui ont créé des Club Med. Les Club Med en allemand, des Club Med en anglais, parce que le Club Med, ça parlait français, donc les Français adoraient aller au Club Med. Mais les Allemands, eux, ils voulaient des Club Med qui parlent allemand, ils en ont fait.
Donc il faut changer.
Et il arrive, et là, il fait ce constat que le Club Med est le plus cher du bas de gamme et le plus cheap du haut de gamme. Donc en fait, il faut choisir un positionnement. Le ventre mou dans le tourisme, ça ne marche pas. Donc, soit il part sur du low cost, c'était un petit peu la stratégie qu'avait échafaudé Philippe Bourguignon, étendre
l'ancien patron
qui venait de Disney, soit il va vers le haut de gamme. Haut de gamme, ça veut dire refaire tous les villages, former tous les salariés, les géos, enfin, tout changer. Pourquoi ? Pour dire, si on veut garder cette notion de camp du bonheur, aujourd'hui, modernisé, il faut que ça gagne de l'argent, parce que sinon, Club Med n'aura aucune indépendance.
Tout cela, ça a nécessité beaucoup d'argent. 2015, le Club Med est racheté par ce fonds chinois, je crois que c'est le plus gros conglomérat privé de Chine, Fosun qui rachète. Qu'est-ce que ça change, ça, il y a 10 ans ?
En fait, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que Henri Giscard d'Estaing a eu une idée qui maintenant s'est imposée dans le secteur du tourisme, c'est de séparer la dimension immobilière de la dimension vacances. Un peu comme l'avait fait Pierre et Vacances, avec Gérard Brémond. Pierre et Vacances. Il y a les pierres, il y a les vacances. Et en fait, Henri Giscard d'Estaing se dit qu'il ne doit plus porter les risques immobiliers en même temps que les risques de saisonnalité, les risques géopolitiques, les risques climatiques. Uh-huh. Donc, il décide de confier la gestion, la construction et l'achat de tous les villages du Club Med à des foncières, des SCPI, des sociétés foncières, les foncières des régions et autres. Donc, il ne porte plus les investissements en France et à l'étranger. Il ne porte plus les investissements, donc il se dérisque. C'est-à-dire qu'il n'a plus le risque immobilier. Et donc, il peut se concentrer sur son métier, les vacances, l'animation des vacances. Ce qu'il se passe, c'est que, évidemment, la rentabilité s'en trouve très, très vite accélérée, puisqu'il n'y a plus d'investissement à faire, et il peut rénover la totalité des villages très vite.
Donc ça marche bien en ce moment, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça n'a jamais aussi bien marché. Le Club Med en 2015, quand Fosun rachète le Club Med, il propose à la bourse 500 millions, le Club Med fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Fosun se trouve à la tête d'un club qui fait non seulement 2 milliards de chiffre d'affaires, mais 100 millions de bénéfices.
Donc, quelle clientèle ? C'est toujours la clientèle française qui domine ?
Du tout. La clientèle, en fait, aujourd'hui, le Club Med a décidé de devenir un vecteur mondial. Du luxe convivial et donc c'est un acteur mondial qui, grâce à son actionnaire chinois, effectivement Fosun, qui a acheté aussi la marque Thomas Cook, lui permet de s'ouvrir l'Asie, et notamment l'Asie chinoise. Et le Club Med était déjà présent depuis longtemps en Thaïlande ou au Japon. Uh-huh. Donc ça lui ouvre la Chine, marché colossal. 1,5 milliard d'habitants qui veulent consommer parce que la classe moyenne commence à arriver à des niveaux de salaire qui leur permettent de consommer. Donc il s'ouvre la Chine. Et puis aujourd'hui, les clientèles importantes pour le Club Med, on le verra tout à l'heure avec le nouveau patron, c'est le Brésil, et les Israéliens, les
beaucoup de
les
Brésiliens, Américains. Des milliers de Brésiliens qui viennent skier dans les Alpes, par exemple, chaque hiver.
Exactement. Il y a 25 000... De mémoire, 25 000 Brésiliens. Il faut savoir que les Brésiliens, ils sont en vacances d'été au moment de nos vacances d'hiver. Les Brésiliens, ils dépensent des sommes quand même assez astronomiques pour venir skier dans des villages comme les Arcs Panorama ou Valmorel.
Jean-Jacques Manceau, je voudrais qu'on en vienne à l'actualité de la semaine. Comité de direction au Club Med réunissant Henri Giscard d'Estaing, qui a donc été débarqué début juillet. C'était le patron depuis 25 ans. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est lié à sa volonté d'ancrage en France ? Il y avait cette volonté, notamment de sa part, que le groupe soit coté en bourse à Paris.
Il avait proposé que le groupe soit coté pour que ça répondait à une forme de solution pour le groupe Fosun. Le groupe Fosun, en 2015, quand Fosun rachète le Club Med, la Chine est conquérante. La Chine achète des actifs en Europe, ils achètent une compagnie d'assurance vie au Portugal, ils achètent énormément de choses. Ils ont racheté les beurres Saint-Hubert en France. Vous voyez, Saint-Hubert...
C'est
le même propriétaire. Ils ont racheté des marques parce que les Chinois se disent il faut qu'on investisse dans des savoir-faire occidentaux, il faut acheter des marques. Donc ils achètent le Club Med. Mais entre 2015 et 2025, ce qui a changé, c'est pas tellement le Club Med, c'est pas tellement la stratégie d'Henri Giscard d'Estaing qui a toujours été la même, le développement. Ce qui a changé, c'est la Chine. C'est-à-dire, ce sont les Chinois. C'est juste que le pouvoir politique a changé, qu'aujourd'hui, l'endettement des conglomérats chinois n'est plus accepté de la même façon qu'avant. Et aujourd'hui, Fosun doit se désendetter. Donc, Henri Giscard d'Estaing avait proposé un plan stratégique qui permettait à Fossum de se désendetter par la mise en bourse, donc une partie du capital, ou éventuellement l'entrée d'un actionnaire. Et pour assurer l'ancrage français, bah cet actionnaire, il aurait plutôt été français, du type BPI ou la Caisse des dépôts, enfin bon, un actionnaire ou même un fonds d'investissement.
Remettre des actionnaires français dans le Club Med.
Remettre des actionnaires français dans le Club Med, parce que même Guillaume Ganchang, le patron de Fossum, le dit, ce qui fait la force et la valeur du Club Med, c'est son ancrage français, c'est sa French touch, c'est la gastronomie française, c'est la façon dont les Français conçoivent les vacances. Les Chinois, aujourd'hui, ils ont lancé en Chine un Club Med un peu nouvelle formule, ça s'appelle des Joy View.
C'est pas tout à fait le même modèle que celui qu'on trouve ailleurs dans le monde.
C'est un produit qui est dépackagé, où les gens peuvent arriver, prendre éventuellement une option animation d'enfant, mais ils prennent une option... ça n'est pas un concept... type Club Med, c'est un concept qui est fait pour les Chinois, c'est-à-dire que les villages sont construits à la périphérie des grandes villes, périphérie de Shanghai, de Pékin et autres. Et donc, en fait, ces villages sont faits un peu pour... C'est des villages de week-end. C'est pas tout à fait la stratégie du Club Med. Il se trouve que, je pense que Henri Giscard d'Estaing ne pensait pas que ce type de produit pouvait fonctionner ailleurs qu'en Chine. Ils ont testé au Brésil. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu un petit désaccord stratégique. Et puis, il y a surtout que les Chinois ont changé, que le patron de la maison mère du Club Med, c'est Fosun, mais c'est Fosun Tourism Group, en fait, la filiale. Mm-hmm. Le patron de Fosun Tourism Group a changé. Il avait des relations très différentes avec Henri Giscard d'Estaing que le précédent. Et ça s'est terminé par l'actionnaire qui prend une décision forte... changer de patron.
Un dernier mot, Jean-Jacques Manceau, on connaît le système des GM, les gentils membres qui sont les clients et les géos, les gentils organisateurs qui sont tous ceux qui les accueillent. C'est bien payé de travailler au Club Med, toutes les petites mains du Club Med ?
Alors, il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle les GE, les gentils employés.
D'accord.
Les GM étant les clients, donc pour eux, c'est plutôt cher que... Enfin, c'est eux qui payent.
C'est eux qui payent.
Alors, sur les GE, non, je pense pas que ce soit particulièrement bien payé. Il y a beaucoup de contrats locaux. Il y a que quand vous travaillez au Brésil, vous êtes payé au tarif brésilien. En Chine, pareil. C'est pas très bien payé. En revanche, il y a vraiment, et là, pour en avoir vu beaucoup, je pense réellement une vraie marque employeur. C'est-à-dire qu'il y a une vraie promesse employeur au sens de... Henri Giscard d'Estaing dit souvent qu'il propose une expérience de vie plus qu'un boulot. Et je pense que ça, c'est vrai. C'est vrai.
Donc, pas le salaire, mais l'expérience boulot, si je dois résumer.
Pas le salaire. Mmh. Alors après, le salaire, il est relatif parce qu'il n'y a pas d'exemple où vous êtes logé, nourri. Mmh.
Et là, c'est le cas. Merci Jean-Jacques Manceau de nous avoir éclairé sur ce Club Med à la croisée des chemins avec ce comité de direction réuni cette semaine. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton. Nous sommes cette semaine sur le chantier de la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Ce chantier a débuté en mars. Il s'agit de reconstruire la flèche, haute de 90 mètres, ainsi que la tourneur du monument, fragilisée et démontée depuis 1846. Alors la basilique de Saint-Denis, c'est le tombeau des rois de France, et elle doit faire la fierté de tous les habitants du département. C'est ce que nous explique l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur Étienne Guillet. Nous le retrouvons sur place.
Je suis là, ici, baptisée ici, il y a 95 ans bientôt.
C'est vrai.
Oui, voilà, vous le 21
septembre. C'est vraiment votre maison. Maison de prière et maison familiale.
Exactement.
Entrons.
Bonjour.
Merci.
Dans cette très belle basilique. Bonjour les amis.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va.
Oui, ça va. Bienvenue. Voilà, alors cette belle cathédrale où tant de rois sont venus... reposer, comme cela est marqué un peu partout, dans l'attente de la résurrection, tout près de Saint-Denis. Pour l'instant, je suis le plus jeune évêque de France. Ça ne va pas durer. J'ai 48 ans. Donc une grande aventure d'être évêque du département le plus jeune, et bien sûrement le plus pauvre de métropole. Voilà, bonjour, ça va ? Petite prière du matin ?
Avant d'aller au boulot, oui.
Avant d'aller au boulot ?
Voilà.
L'évêque ici.
Ah oui, non, je vous ai vu sur les tableaux et tout.
Tu m'as vu sur les tableaux.
Voilà.
Donc tu es venu faire une petite prière avant de partir au travail ?
Oui, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de soucis ces derniers temps. Ouais. Et du mal à trouver du boulot. Je me suis retrouvée à un licenciement et à retrouver un boulot. C'était catastrophe. Avant, j'étais un spa praticienne dans le luxe. Hein. Je suis masseuse, esthéticienne, mais dans les gammes luxe. Et aujourd'hui, je me retrouve à être secrétaire dentaire. C'est un beau boulot, mais je stresse, quoi, parce que je n'étais pas formée et j'apprends sur le tas, quoi.
Et puisque c'est difficile, tu viens faire une petite escale à la basilique et avant
écoutez,
de prendre la journée.
Moi, je suis l'île Maurice, ouais. D'origine de l'île Maurice. Ouais. Nous, on est multiraciales. Je suis hindoue, pas baptisée catholique, mais ouais. Toute petite, mes parents, mes grands-parents ouais. M'ont emmenée à l'église catholique.
Okay.
Donc, il n'y a pas de temple ici. Donc, ouais. Je viens, je prie. Le Seigneur, voilà.
Ok, t'as confié ta journée ?
Ah oui, ma okay. Journée et même mon long parcours de CDD. Faut dire la vérité, depuis que je me suis retrouvée au Pôle emploi.
Vous pouvez me dire votre prénom peut-être ?
Oui, je m'appelle Selvina. Voilà.
Bientôt Selvina,
merci.
Bon courage, on pense à
au
toi.
Au revoir.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, on peut aider chacun à vivre la tête haute en étant fier de sa vie, de ses identités souvent multiples au fil de voyages et de migrations. Parce que quand on est chrétien, il n'y a plus de tamoul, il n'y a plus d'ivoirien ou de français d'origine depuis toujours. Donc ça c'est essentiel. Ils sont porteurs aussi parfois de cette difficulté à trouver du boulot quand on voit que c'est le 93. Moi j'arrive d'une autre ville dans les Yvelines qui était les villes de Mantes-la-Jolie et auparavant de Trappes. J'ai su ce que c'était que d'avoir des CV pour les jeunes destinés à la poubelle parce qu'ils étaient inquiétants, que c'est comme ça qu'on les regardait. On pourrait se dire mais quel contraste entre la France et tous ces défis du 93 et la basilique historique des rois de France. Et pourtant c'est la même histoire. Et alors ici on est dans la partie de la prière, voilà, du culte. Mais je dirais la messe pour elle.
Ah merci. Alors vous ajoutez Teresa parce qu'elle...
Oula, attendez, il y a beaucoup de prénoms, je ne veux pas que j'oublie tout ça. Je mettrai un collectif. Anne, Bianca...
Teresa.
Et oui, Teresa.
Suzette et ses amis.
Ok, ça marche, Suzette et ses amis.
Le Seigneur saura.
Merci, c'est sympa. Moi je suis très ému par cette flèche qu'on va reconstruire. Hein. C'est une élévation vers Dieu. Elle rappellera à toutes les Selvina, à tous ceux qui bossent, qui galopent dans leur vie, qui vont au métro, qui courent pour travailler, chercher les enfants... Au milieu de leur existence, cette flèche verticale, la grande verticalité, leur dira « lève le regard ». Ça sert à ça, une flèche.
La reconstruction de la basilique de Saint-Denis, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France le lundi à 13h50. Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, nous allons vivre les derniers jours d'un pont dans un village des Hautes-Pyrénées.
Le pont du Coustou à Ariès-Espénan, 90 habitants. Demain, son accès sera impossible. Des panneaux de signalisation ont été installés sur les routes ce week-end. 4 ans après avoir été placé sur la liste des ouvrages fragilisés et dangereux, il sera démoli à partir du 29 septembre. Mmh. Madame le maire, Isabelle Gandhi, est pressée de voir le chantier démarrer. Elle se fait du mauvais sang depuis qu'un ingénieur du conseil départemental l'a alertée. Et dis donc, t'as vu l'état de ton pont ? Il est rongé par la corrosion. Tes poutrelles métalliques, on dirait des millefeuilles. J'en ai perdu le sommeil, se souvient Isabelle Gandhi, élue depuis 1995. J'ai eu peur qu'il s'écroule, qu'il y ait un drame. Alors la retraitée de 63 ans a fait ausculter les 5 ponts de son village. 2 se sont révélés problématiques.
Et il a fallu choisir entre les deux.
Isabelle Gandhi a décidé de commencer par le Coustou, le plus détérioré, le plus emprunté également. Il dessert la 2e église de la commune, son cimetière, un camping, 3 maisons, une bergerie. Dans un premier temps, il a été interdit aux véhicules de plus de 12,5 tonnes. Et puis, cet élu énergique s'est lancé dans une course au financement. La facture pour démolir et reconstruire le tablier et le garde du corps se chiffre à 370 000 euros. Alors, elle a trouvé 198 000 euros auprès du plan national SOS Pont, débloqué grâce à la sénatrice Maryse Carrère du Parti radical de gauche. La sous-préfète des Hautes-Pyrénées a obtenu une enveloppe de 28 000 euros. Et puis, le département a alloué une aide exceptionnelle de 30 000 euros.
Il a aussi fallu parlementer avec les riverains.
Ils vont devoir faire un détour en voiture ou traverser la rivière sur une passerelle piétonne jusqu'à Noël. À 6 mois des élections municipales, bloquer un pont, c'est une mesure risquée pour un élu. Il y a des discussions musclées, reconnaît avec franchise l'édile. Encore ce matin, elle m'a dit qu'un habitant l'avait rouspété à cause de ce pont. Et puis il y a la protection de la nature pendant les travaux. Demain, un échafaudage équipé équipé de filets sera installé au-dessus du Gers, au-dessus de la rivière,
oui.
car aucun débris ne doit tomber dans l'eau. En 2026, si elle est toujours maire, elle s'occupera de sécuriser le petit pont de la source.
Alors, au-delà de ce village d'Ariès-Espénan, quel est l'état des ponts en France ?
Sur 43 000 ouvrages, 10 000 sont en mauvais état. 2 500 ponts nécessitent des travaux en urgence, nous dit Roland Abou. C'est le directeur du département technique d'ouvrages d'art au CEREMA, le centre d'expertise et d'études des risques pour l'aménagement du territoire. Il encourage les élus locaux à faire contrôler leurs ponts tout au long de l'année, surtout après des épisodes intenses, forte chaleur, sécheresse, séisme, crues, inondations. En un an, 80 ponts de petites communes rurales ont pu être remis en état. Une centaine d'autres sont en cours de rénovation.
Cécilia Arbona dans ce C'est la France, tous les lundis dans le 13-14. De C'est la France à C'est une chanson, c'est une photographe, Camille Lévesque, que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
On peut voir actuellement son travail à Arles dans le cadre des rencontres de la photographie. L'exposition a pour titre « À la recherche du père ». On la retrouve aussi dans un livre publié chez Delpire. Et c'est une chanson de l'italien Giorgio Poi que Camille Lévesque a souhaité que l'on écoute. La chanson s'appelle « Super Mercato ». Je lui ai demandé comment elle était entrée dans sa vie.
Elle entre il y a quelques années, je dirais peut-être 5 ans, par l'intermédiaire de mon conjoint, qui me fait découvrir beaucoup de musique et qui commence à me faire découvrir cet artiste. Et c'est un artiste qu'au final, on écoute énormément tous les deux et énormément en contexte de vacances et beaucoup dans la voiture. Donc c'est associé à des déambulations dans les montagnes. On aime beaucoup être à la montagne. Et vraiment un moment de calme, de vacances et où on est tous les deux ou avec notre fille.
Votre fille qui a quel âge ?
Qui a 4 ans. On va partout avec elle.
C'est quelle montagne ?
Les Alpes.
Et ça depuis plusieurs années ?
Depuis beaucoup d'années en fait. On a vécu longtemps avec mon conjoint aux États-Unis et ce qu'on aimait particulièrement c'était la nature. C'est vraiment une nature très sauvage et c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en France. Il n'y a pas la grandeur des grands parcs américains, Yosemite, Yellowstone, Sequoia Park. Et les Alpes, il y a quand même cet effet waouh qui est un peu renversant. Il y a vraiment ces paysages de montagne qu'on aime énormément, dans lesquels on se sent bien.
Et dans cette chanson-là, vous vous sentez bien aussi ?
Très bien, oui.
Al supermercato arrivano niente. Ho preso soltanto un sacco di freddo. Mi sono perso tra gli scaffali dei detersivi e dei cereali. In un abisso di mille colori e promozioni sensazionali.
C'est en 2021 qu'est sortie cette chanson italienne, Frédéric.
Une chanson qui évoque deux êtres en mal d'amour, perdus au milieu des rayons d'un supermarché. Et là, on est très loin de la passion amoureuse que vit Camille Lévesque depuis une douzaine d'années.
C'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette chanson parmi d'autres de Giorgio Poi, c'est que... En tout cas, dans les représentations qu'on en fait, que ce soit au cinéma ou dans la musique, on confond la passion et la violence, j'ai l'impression. La passion amoureuse, c'est souvent violence, c'est des rapports de force. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être très privilégiée avec un amour qui est très rond, très doux, très apaisant. Et cette musique, elle est associée un petit peu à ça, donc c'est quelque chose dont j'aimerais parler, parce que c'est pas que cette représentation de la violence.
Vous, c'est une passion douce ?
C'est une passion douce, alors dit comme ça, ça n'a pas l'air très excitant, mais c'est merveilleux, c'est quelque chose d'énorme en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, si je suis la personne que je suis et que j'arrive à travailler comme je travaille, c'est grâce à cet amour, c'est grâce à ce soutien. Et que cette passion-là, bah, c'est la passion de fonder une famille, aussi d'avoir un enfant dans un contexte global qui est très angoissant. Donc c'est vraiment la description d'un amour inconditionnel et c'est assez rare à trouver.
Ho fatto un giro tra i sottaceti, davanti al frigo dei surgelati, e in preda a un vortice di emozioni.
Est-ce que vous savez dire ce que vous aimez chez votre compagnon ?
Je pense qu'il y a déjà la manière dont il m'aime, cette manière inconditionnelle qui me rassure énormément, qui me porte énormément, qui me permet d'être qui je suis, de la manière dont je veux l'être, avec mes défauts et mes qualités. Et plein de choses sont évidentes, sa gentillesse, son intelligence, son humour, sa bienveillance totale. Voilà, quelqu'un de merveilleux.
Il s'appelle comment ?
Mathias.
C'est précieux ce que vous vivez avec lui ?
C'est précieux, c'est unique, c'est pour toute la vie et je sais que c'est très rare.
Vous savez que c'est pour toute la vie ?
Je sais avec certitude que c'est pour toute la vie.
Qu'est-ce qui vous fait être sûre de cela ?
Une évidence. C'est même pas me dire que j'espère que ce sera pour toute la vie. Pour moi, c'est une forme d'amour qui est tellement logique, qui est tellement complète que je vois pas comment il pourrait en être autrement. Ça me paraît impensable.
Est-ce que quand vous entendez cette chanson-là aujourd'hui, vous avez les images des endroits où vous l'avez écoutée, les images de vos vacances dans les Alpes, par exemple ?
Oui, complètement. Et comme on l'écoute vraiment, quasiment, essentiellement dans ce cadre-là, pour moi, c'est très associé à ce moment-là, de vie commune, de bonheur, de nature, très paisible.
Donc c'est une chanson du bonheur.
C'est une chanson du bonheur.
Super Mercato, Giorgio Poi, c'était donc Frédéric, le choix de Camille Lévesque.
Camille Lévesque, dont l'exposition à la recherche du père se tient jusqu'à la fin de la semaine prochaine, rencontre de la photographie d'Arles.
Merci Frédéric et à demain.